Pis toi ta journée avec Élisane Pellerin.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pis toi ta journée. Un épisode où on va parler de personnes discriminées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer M. Jean-Pierre Duchesne, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, M. Duchesne?
Ah, ça va très bien, merci, vous-même.
Ça va, merci beaucoup. On a le plaisir de vous recevoir, M. Duchesne, et d'abord, je me permets de vous demander de nous parler de votre condition, parce que, évidemment, dans notre balado, on rejoint toutes sortes de personnes qui sont discriminées par la société. Dans votre cas, à vous, vous avez donc une situation d'handicap visuel. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce qui vous a mené à cette condition-là?
Oui, moi, évidemment, je suis complètement aveugle. Depuis 4 ans et demi. Mais depuis 2018, il m'est arrivé un incident. Mes yeux fonctionnaient très, très, très bien. J'ai eu un choc émotif. C'est de là que j'ai commencé à perdre la vue jour pour jour, un an plus tard. Mon choc émotif, c'est... je suis parti en voyage le 26 de mars. Puis pendant que j'étais parti en voyage, ma mère est décédée le 1er avril. Et moi, je revenais le 3 avril. Suite à ça, ben le 26 de mars de l'année d'après, les deux rétines de mes yeux ont décollé.
OK. Et là, parce que les rétines ont décollé, donc les médecins ont essayé de sauver vos yeux. Vous avez eu plusieurs opérations. Malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné.
Non, j'ai eu quand même 14 opérations dans un an et demi. Suite à ça, ben j'ai fait de la fibrose. J'ai été obligé de suivre de la chimio. Puis après la chimio, ben j'ai les cornées qui ont percé. Alors, j'ai eu le mangeur de chair, la mangeuse de chair, le stressocope. Alors, on a été obligé d'enlever, m'enlever un œil. Maintenant, je suis rendu avec une prothèse. Plus tard, on va m'enlever l'autre.
Et puis, donc, en tous les cas, là, des deux côtés, donc des deux yeux, là, vous n'avez plus du tout de vue.
Non.
Donc, vous l'avez dit, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant là, que vous êtes non-voyant.
Exact.
Et donc, vous avez décidé quand même, quand vous avez fait face à cette nouvelle condition-là, vous avez décidé de faire du bénévolat. C'est comme ça, entre autres, que vous occupez là, vos journées. Voulez-vous nous parler un peu plus de votre action bénévole?
Oui. Ben, de toute façon, tout a commencé par, je vais commencer par dire au public que mon médecin, à un moment donné, était découragé après toutes mes opérations. J'ai tapé sur l'épaule et je leur ai dit, dans la vie, on a le droit à deuxième chance. Moi, dans la vie, j'ai le droit à une deuxième vie. C'est là qu'a commencé mon bénévolat. La deuxième vie, là, c'est qu'il faut que tu réapprennes à marcher, à manger et tout et tout. Mais je suis quand même un bon combattant. Enfin, j'ai commencé à faire du bénévolat pour l'INCA, l'INCA,
oui.
En faisant des appels amicaux à des personnes non-voyantes. Je les encourageais... C'est des personnes, c'est-à-dire, qui n'étaient pas encore non-voyants, mais ils étaient pour devenir non-voyants.
Oui.
Fait que je les encourageais, c'est du monde qui avait peur de la noisseur, ils ne savaient pas comment se débrouiller dans la maison. Fait que moi, je les appelle une fois par semaine, depuis 2 ans et demi. J'en fais aussi pour le CAB, la ville de Saint-Eustache. Puis suite à ça, ben, demandez-moi pas comment ça, je me suis rendu là, je suis rendu membre dans un groupe de ADVAL, qui est l'Association des personnes aveugles et les personnes handicapées visuelles et aveugles de Laurentides. Et je suis dans le CA en tant que vice-président.
Oui, donc vous avez fait quand même un bon cheminement là, depuis. On le rappelle, donc, votre accident, votre nouvelle situation, là, c'est seulement depuis 4 ans. Donc c'est quand même là, tout récent pour vous. Mais vous avez rapidement pris les choses en main puis décidé que vous alliez virer ça au positif. Là.
Oui, ça, on appelle ça la résilience, madame.
Oui, oui.
Je suis un combattant, comme je disais tantôt. Je prends tout ça à la légère. Pour moi, aujourd'hui, là, je vois juste du noir. Mais pour moi, la vie, je vois la vie en rose.
Effectivement.
Moi, j'ai rien de négatif dans ma vie. Là. Tout est positif. C'est sûr qu'au début, les 2 premiers mois, c'est sûr qu'on se regarde les mains et qu'on se dit, ben, je suis plus capable de rien faire. Moi, je suis un gars manuel. Mais à long terme, regarde, ça passe. Puis aujourd'hui, je suis le gars le plus heureux. Je veux dire, je m'aventure dans toutes sortes de choses. Ça m'empêche pas de faire du ski nautique. Ça m'empêche pas de faire du ski doux. Ça m'empêche pas de rien. Je fais quand même toutes mes activités.
Et qu'est-ce que le... Ben oui, vous le faites différemment, naturellement, là.
Oui, je suis accompagné.
Oui, c'est ça. Puis vous êtes effectivement bien accompagné. On en reparlera tout à l'heure, là, de tout ce qui est proche aidant. Mais également, qu'est-ce que le bénévolat vous a apporté? Parce que je sais que vous apportez aux autres, bien sûr, hein, mais j'imagine que ça vous apporte à vous aussi.
Écoutez, tout ce que je peux donner, moi, ça m'en donne aussi. Ça me valorise dans le sens que je me sens plus actif, je me sens plus aussi, comment vous dirais-je, avec la société. J'aide à quelqu'un,
Oui.
et moi, ça me fait du bien. Ça me fait autant de bien à moi que ça peut le faire à eux. Au moins, je suis pas renfermé dans ma solitude, des choses comme ça, vous comprenez?
Vous vous sentez plus intégré de cette façon-là, là, parce que vous vous
Exactement.
sentez que vous êtes une part de la société, c'est ce que je comprends?
Exactement, exactement. C'est se faire sortir de son isolement.
Et vous travaillez, vous faites du bénévolat aussi avec des personnes qui sont très isolées. En quoi l'isolement devient difficile là, quand on est une personne en situation de handicap? Qu'est-ce que ça apporte là, comme défi supplémentaire quand on est isolé?
Tant qu'on est isolé?
Quand on est une personne isolée, quand on est une
Oui.
personne qui a peu de gens autour de nous, qu'est-ce que ça apporte comme défi supplémentaire quand on est en situation de handicap?
Quand
Qu'est-ce que vous voyez là, chez des personnes que vous aidez bénévolement?
c'est des personnes qui sont isolées, c'est triste. Ils sont seuls, ils se laissent aller, ils sont oubliés. Je trouve ça vraiment triste. Moi, mon but à moi, c'est de les faire sortir de l'isolement, de se rencontrer. Je fais des groupes de rencontres à chaque semaine, à tous les lundis. Je vais chercher ce monde-là. Puis, si vous saviez comment ça change de vie. Là, j'ai arrêté pour le temps des fêtes, puis ils sont peinés, puis ils disent « Oh, ça va être long, on va vous revenir », puis ça, m'a fait des impôts, j'ai pas oublié. Ce monde-là, aujourd'hui, sont épanouis, ils se sentent moins seuls. Parce que c'est pas évident d'être isolé dans une maison, que t'es tout seul, t'es oublié souvent par même par ta parenté, c'est triste.
Effectivement. Puis, de votre côté, donc, vous n'êtes pas du tout isolé. Puis ça a quand même aidé aussi au fait de vous adapter à votre nouvelle vie, là. Vous avez votre conjointe, vous avez votre famille.
Oui, parce que moi, j'ai construit ma maison il y a 43 ans moi-même. J'ai fait une maison intergénération. Fait qu'en une maison intergénération, il y a toujours quelqu'un dans la maison. Mon Dieu, je fais des rimes en même temps. J'ai ma fille qui reste à côté. J'ai mon époux, j'ai mes petits-enfants qui sont tout le temps là pour m'aider. C'est ça, la résilience, c'est de s'adapter. Parce qu'on s'accepte pas en tant que. On n'accepte pas notre handicap. On s'adapte. Moi, je me suis adapté avec qu'est-ce qu'on me donne comme condition. Moi, j'ai toujours dit à mon épouse, un jour, quand je serai grand-papa, je vais aider à mes enfants, je vais leur donner la main, je vais leur montrer le chemin, comment qu'on fait. Mais aujourd'hui, tout est le contraire. C'est mes petits-enfants qui. Je me rappelle un jour, j'étais en arrêt de. Je m'en allais à l'extérieur. Puis j'ai senti une petite main d'enfant de 5 ans rentrer dans la mienne, puis me dire, grand-papa, viens, je vais t'aider. C'est ça, il faut l'accepter. C'est ça, la résilience. Je trouve ça extraordinaire.
Mais en même temps, vous aussi, là, vous apportez à vos petits-enfants, c'est-à-dire qu'ils vous aident beaucoup et votre famille vous aide beaucoup, mais vous aussi, vous leur montrez quelque chose, vous leur montrez ce qu'est la résilience, vous leur montrez aussi à être ouvert aux autres, à être ouvert à la différence, entre autres, et à être respectueux, des différences. Donc, ça va des deux côtés.
Oui, ça lui donne un plus. La preuve, c'est que mon petit-fils de 7 ans, qui va en première année, il y a un enfant qui est semi-aveugle, quasiment aveugle. Il s'est annoncé dans la classe. Mon petit-fils est arrivé et il a dit, veux-tu que je t'aide? Mon grand-papa, il est comme ça, puis je sais comment faire. C'est extraordinaire. Mon petit-fils, il serait capable de prendre un non-voyant, puis le promener dans la rue ou n'importe où, puis il saurait quel geste faire. Il sait que lui, il va tendre son bras. Il ne prendra pas mon bras, il va me tendre son bras. Si je passe une porte, il va prendre son bras, puis il me met en arrière de son dos pour que je aille en arrière. Il est vraiment bon. Les escaliers, c'est la même chose. Ces enfants-là, c'est un plus pour eux autres. Mais en même temps, ben, il y a un côté, comme vous disiez tantôt, un certain respect pour les personnes qui sont invalides, ont un handicap. Moi, mon petit-fils, il va voir une canne blanche, il va savoir c'est quoi. combien de personnes qu'on rencontre, d'enfants qui savent pas c'est quoi. Fait que c'est un avantage pour eux aussi, là.
Et moi, j'ai l'impression que la nouvelle génération est quand même plus ouverte aux différences et quand même plus ouverte en général à ce qui aux différents, c'est ça, à la différence puis aux gens qui ne pensent peut-être pas comme eux. Est-ce que vous voyez aussi dans la nouvelle génération là un espèce de souffle d'espoir au niveau de l'acceptation des autres et puis du fait de meilleur vivre ensemble?
Oui, dans la nouvelle génération, oui, je le vois. Mais pas dans la salle d'aujourd'hui de mon âge ou de ceux d'une vingtaine d'années. Mais les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, à l'école, on lui donne des références, on va faire des rencontres. Puis les jeunes, tu vois qu'ils acceptent, puis ils viennent t'aider, puis ils comprennent plus, puis non, là-dessus, je pense que la nouvelle génération est plus up-to-date, comme on dit.
Et puis, vous faites aussi, vous avez été dans un jumelage au niveau du bouclier. Donc, vous vous jumeliez avec une autre personne qui était non-voyante. Dans son cas, je pense que le monsieur était aveugle, si je ne me trompe pas. Parlez-moi de ce jumelage-là et où vous en êtes rendu aujourd'hui avec ce monsieur-là.
C'était un jumelage, madame, là, extraordinaire. Ce jumelage-là, cette personne-là est devenue mon âme sœur. Tout a commencé avec le bouclier. Ils m'ont jumelé avec cette personne-là. On m'a dit son prénom, Alain. Alain, quand ils l'ont contacté, il ne voulait pas parce qu'il dit, moi, je ne suis pas un psychologue. Là, ça ne me tente pas. On m'a demandé mon opinion à moi. Moi, je venais juste de tomber non-voyant. Enfin, je dis, moi, ça ne me dérange pas. À fin de compte, Alain a accepté, puis il m'a appelé. Aussitôt qu'il a commencé à me parler au téléphone, on a parlé pendant 1 heure de temps. Une personne que je ne connais pas. Ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît. On se voit tous les semaines. Lui, ce monsieur-là, ça fait 30 ans qu'il est non-voyant. Il avait quand même l'expérience. Puis moi, j'avais aucune expérience. J'ai jamais eu de cellulaire. Je comprenais plus mon ordinateur. Puis lui, après 30 ans, ben, il est super bon dans le techno. Fait qu'il m'a donné des conseils dans le techno, mais par contre, moi, de mon côté, ce monsieur-là, il n'a pas de canne blanche, ne sortait pas, n'allait pas magasiner, ne faisait rien. Aujourd'hui, ce monsieur-là, à un moment donné, je l'ai rencontré avec mon épouse, on a des cartes de Costco pour ne pas faire de publicité. Puis j'ai dit à son épouse, ça vous tente-tu d'aller magasiner? Son mari dit, oh, oui, on va y aller, et je vais t'attendre dans l'auto. Ah, ben, pas de problème. Mais quand ils sont rendus au magasin, je dis à ma femme, va chercher Alain avec ta carte, puis moi, je vais aller chercher son épouse pour vous rentrer comme deux pots. Ce monsieur-là, aujourd'hui, là, quand il rentrait dans le Costco, là, il a capoté, sa femme, il disait les prix, puis il était fou. On est sorti de là, on était mangé dans un restaurant, il a accepté. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il a acheté un dépanneur dans un camping. Il est non-voyant. C'est sa femme qui s'occupe de ça. Lui, il fait la comptabilité. Puis, il va avec sa mère faire les commissions. Il va magasiner maintenant quasiment tous les jours. Il a sa vie a changé. Sa femme a dit, Jean-Pierre, merci, merci, merci. Il est devenu, il a eu son indépendance. Il est capable de se faire toutes ces choses tout seul. Par la suite, on a eu un projet. Moi puis Alain, il s'est acheté une roulotte. Évidemment, il a vu qu'il était dans un camping. Puis il trouvait ça désagréable parce que quand il descendait sa roulotte, il était sur la roche, dans le gazon. Mais j'ai dit, écoute, on peut se faire un plancher, une plateforme. Ah ouais! On est tous les deux non-voyants. Je suis arrivé chez lui avec des plywood, comme on dit, des faits de plywood, des contreplaqués. On a été chercher des palettes de bois. On a mis ça par terre. On a vissé tout ça sur les. On a pu les On a vissé les planches sur les palettes. On a taqué un tapis. On a fait des marches. Moi, j'ai pris la scie électrique. J'ai tout coupé les côtés. On est tous les deux non-voyants. Mais par contre, on avait une grand-maman. Sa maman avait ses yeux encore. Fait que j'ai demandé, pouvez-vous me prêter? Vous allez me guider avec la scie. Fait qu'elle me disait, à gauche, à droite, à gauche. On a tout fait ça au complet. Super. Ça a l'air, c'est super beau. Ça a été un projet qu'on a fait, qu'on est vraiment content. Aujourd'hui, regarde, de plus en plus, on se fait des projets. Aujourd'hui, le monsieur Alain, il donne de la formation techno dans l'association. Il sort beaucoup, puis c'est vraiment le fun. Ça a été une amitié profonde. Écoute, on se quitte jamais, 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 jamais. À toutes les semaines, on se rencontre, puis on va dîner ensemble. C'est le fun parce que le couple, son épouse, puis mon épouse, ont les mêmes infinités. Ils font tous les deux de la peinture, ils font tous les deux les mêmes choses, fait que c'est le fun. Ça a bien à donner.
C'est un monsieur qui sortait pas du tout de la maison, là.
Non,
Donc,
non, non.
ça a vraiment changé sa vie, c'est le cas de le dire.
Ah oh, oui, il a changé la mienne, j'ai changé la sienne. C'est extraordinaire, un couple parfait.
Le fait que vous ayez construit cette maison-là aide aussi, évidemment, parce que vous connaissez tous les recoins, étant donné que c'est vous là, qui avez construit la maison. Mais au-delà de ça, là, vous avez quand même plusieurs outils qui vous aident à l'intérieur de la maison là, pour votre quotidien. Est-ce que vous voulez nous parler des outils que vous utilisez?
Des outils pour quoi? Pour m'aider dans la maison ou
Oui,
des outils
de la technologie que vous utilisez, par exemple, par
pour.
exemple.
Pour continuer à être un petit peu manuel, j'ai un tape à mesurer qui parle.
Oui.
J'ai un niveau qui parle. J'ai un pen friend, comme on l'appelle, pour regarder, trouver mes objets de mon linge, la couleur de mon linge, choses comme ça. Puis, mais dans la maison, je me sers pas vraiment de canne, de non, je connais ma maison par cœur. Mais c'est ça que j'ai comme outil. J'ai un outil aussi pour quand je veux verser de l'eau dans un verre. Il me guide pour me dire comment quand arrêter. C'est des outils que j'ai aussi un Victor que je me sers pour enregistrer.
Comment
Ça,
ça
c'est.
fonctionne un Victor, c'est pour les personnes qui sont pas familiers?
Un Victor, c'est quelque chose qu'on m'a prêté, le bouclier m'a prêté. Ça sert pour prendre des notes, enregistrer. Ça sert de radio. Ça sert aussi d'information. Ça ressemble un peu à un petit radio portatif.
OK, donc avec ça, vous pouvez donc avoir accès à l'information puis également être capable d'organiser des notes, par exemple, pour votre travail bénévole.
Oui. Si quelqu'un m'appelle au téléphone, là, je sors mon Victor, je prends mes notes. Parce que je ne peux pas écrire, évidemment. Fait que je sors mon Victor et je prends mes notes.
C'est le genre de choses qui vous aident au quotidien. Par contre, on a parlé en pré-entrevue, là, vous ne voulez pas de chien d'assistance. Moi, évidemment, j'ai un chien d'assistance parce que je suis atteinte de paralysie cérébrale. Donc, j'ai un
Salut.
chien qui est toujours avec moi, qui est avec moi en studio d'ailleurs en ce moment. Vous, de votre côté, là, vous privilégiez pour l'instant, là, d'avoir une canne blanche.
Oui, pour l'instant, je préfère avoir une canne blanche, mais je vous dirai pourquoi c'est comme qu'on en parle parce que hier, justement, on parlait de chiens, des chiens Mira, puis ça. Moi, qu'est-ce que j'avais peur? C'est parce qu'on me disait, fallait que je le lave, fallait que j'aille manger, c'est moi qui, faut qu'il, tout le temps moi qui s'en occupe. Mais on me dit hier que non, c'était pas vraiment, oui, c'est toi, faut qu'il donne à manger, tu vas faire prendre des marches. Mais pour le nettoyage, le toilettage, tu peux aller le faire nettoyer ailleurs, dans une place spéciale.
Oui,
C'est
je vous
toujours
confirme
comme.
que c'est pas moi qui nettoie mon chien, là.
Ben, c'est ça qui me faisait peur. Moi, je me disais, je peux pas faire ça.
Non, moi, j'ai pas ce talent-là, puis j'ai mes deux yeux, là. Ben, je vous confirme, il a pas chien, il a poil droit, que c'est moi qui lui faisais, là. Mon chien a beaucoup, beaucoup de poils, là. Donc, non, je donne ça à une toiletteuse.
OK. Non, évidemment, je ne vous dirais pas que. Si j'avais pas mon épouse, probablement que j'aurais un chien. Là, j'ai encore mon épouse qui est là pour m'aider, pour me guider. On est toujours ensemble. qui est à sa retraite. Fait que j'ai pas vraiment besoin maintenant de chien. Surtout qu'on voyage aussi, fait que c'est plus facile comme ça.
Oui, un chien demande un peu plus d'adaptation. Puis quand on voyage, évidemment, on peut emmener un chien avec nous, mais c'est toujours un petit peu plus difficile quand on a un chien. On en parlait aussi en pré-entrevue. Là, moi, je vous disais à quel point ça faisait la difficulté dans les aéroports à avoir un bon service. Puis comment, avec un chien et le fauteuil roulant, pour moi, ça devenait extrêmement difficile. De votre côté, vous me disiez plutôt que vous aviez un excellent service.
Oui, avec à l'aéroport, ben, j'ai pas de problème. Oh, mais c'est comique parce que Alain, que je vous parlais tantôt, lui, il n'y a pas de canne blanche, il n'y en a jamais eu. Puis il voyageait, puis ça, puis oh, j'ai dit, tu devrais prendre une canne blanche. Je te dis, moi, depuis que je me rends à l'aéroport, j'ai ma canne blanche avec mon épouse, je passe devant tout le monde. Je passe des douanes. Écoutez, j'arrive de voyage de pas longtemps, là, puis je vous jure, ma mon épouse, elle m'a dit, on n'a même pas été 15 minutes dans l'aéroport. Aux douanes, passer aux douanes, pas plus que 15 minutes.
Oui, ça, c'est l'avantage.
Puis, écoutez, je suis arrivé là-bas, quand je suis arrivé dans le sud, je suis sorti, Air Canada, ils m'ont présenté, ils m'ont assis dans une chaise roulante. Ah ouais, go, 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 on passe partout, puis j'ai passé vite, 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 puis j'ai un service, on m'a même donné un menu en braille. Écoute, c'était extraordinaire, j'ai jamais vu un service de même.
Je veux revenir quand même sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous vous adaptiez à votre condition, mais vous ne l'acceptez pas. C'est quoi la différence pour vous?
Oh mon Dieu, comme la différence. Écoutez, j'accepterai jamais d'être devenu non-voyant. Je veux dire, comme je disais à une madame, il y a une madame qui m'avait dit, oh Jean-Pierre, tu devrais accepter ta condition. J'ai à la madame, je dis, moi, si vous perdez vos deux jambes, allez-vous accepter d'être dans une chaise roulante toute votre vie? Vous allez accepter ça? Ou vous allez vous adapter à votre chaise roulante? Ouais, ben c'est la même chose. Moi, je m'adapte à la situation. J'ai appris à manger de nouveau, comme dans mon assiette. Ils m'ont mangé, ma viande était à 6 heures, mais peut-être à 12 heures, mais les autres choses à 3 heures, l'autre à 9 heures. Quand je marche avec ma canne, j'avance un coup à la fois, j'aurais appris à marcher. C'est, je m'adapte à la situation. Accepter de plus voir mon épouse, accepter de plus voir mes petits-enfants, oh non, 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 je ne peux pas accepter ça. C'est de cette façon-là que je vois que j'accepte pas.
Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, votre nouvelle condition?
Mon Dieu, ça m'a appris à être plus calme. Normalement, j'arrête. Au début, j'étais très nerveux, très stressé. À long terme, je suis devenu plus calme, puis plus, comment dirais-je, moins, j'étais pas agressif, mais je veux dire, je suis plus, je sais pas, mais je vois la vie plus, la vie, je la vois plus belle que je la voyais avant. Je m'attarde à toutes les choses de mon oreille, mais mon ouïe s'attarde à des feuilles qui vont tomber, de l'eau qui coule, la musique. Je prends le temps de vivre à cette heure. Avant, je ne le faisais pas. Tu sais, quand on voit, on travaille, go, 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 d'un bord, go, 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 de l'autre bord, t'as pas le temps. Tu prends pas le temps. Là, aujourd'hui, je prends le temps.
Est-ce que votre
J'aime.
relation, pardon,
Oui.
est-ce que votre relation avec vos proches a changé également?
Pas ma famille proche, proche, proche. Quand je dis mes enfants, mes petits-enfants, non. Certaines personnes, oui. J'en ai que j'ai complètement, je me suis quasiment effacé d'eux. J'ai un de mes frères que je me suis effacé. Ça, comme j'ai un ami, lui, qui n'est pas capable de m'approcher, il n'accepte pas que je sois devenu comme ça. Fait que je l'ai perdu. Et il dit, Jean-Pierre, je m'excuse, mais quand je te vois, je pleure, puis ça me fait peur. Fait qu'il dit, je m'entends. Ah, ben, c'est parfait. Mais il dit, on peut se parler au téléphone. Mais on se voit plus. Mais pour ma famille proche, 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 là, non. J'ai pas eu de. Non.
Est-ce que ça vous a rapproché?
Je dirais que oui. Oui, peut-être, oui. Je suis plus. Oui, on est plus proche. Oui. Ah, oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous dites, avec mon fils surtout. Donc, mon fils, on est devenu très, 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 très proche comparativement avant qu'on était comme, tu sais, des hommes. Les hommes, ça parle d'un bord, de l'autre bord, ça se fait pas des câlins. Puis depuis que je suis noyé, mon fils, on se fait des câlins, on fait des voyages ensemble, on rigole. Oh non, non, oui, ça m'a rapproché.
Parce que vous voyagez beaucoup quand même, malgré votre condition. Vous dites que vous êtes revenu de voyage il y a pas longtemps, mais vous privez pas du tout de voyager.
J'ai pensé me priver quand je suis devenu non-voyant. J'ai voulu utiliser mon épouse. Plus jamais je voyage, je ne vois plus, ça ne donne rien, puis tout ça. Mais Alain, le garçon qu'on parlait tantôt, lui voyageait en Europe et on parlait de ça. Et j'ai dit, fais pas ça. Il dit, fais pas ça. Non, non, il dit, continue à voyager. Il dit, t'as déjà vu, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi l'eau, les palmiers, les bananiers, les nanas? Ben, j'ai dit, quoi? Je vais l'essayer. Je l'ai essayé, puis je l'ai adapté. Je continue toujours à voyager. J'adore ça. Puis on va souvent à la même place. Puis je connais l'hôtel. Puis le monde commence à me connaître là-bas. Fait que c'est le fun.
Est-ce que vous vous considérez comme étant une personne courageuse? C'est quelque chose qui est un peu
Oui.
tabou là, avec les personnes en situation de handicap.
Ben, ça prend du courage pour faire ce que je fais. Je veux dire, ça prend un certain courage de. Tu sais, je veux dire, je pourrais bien m'asseoir puis dire, je fais plus rien. Je me dis non, moi je ne suis pas une personne comme ça, je prends mon courage à deux mains puis je fonce dans le tas. Non, je me considère comme courageux.
Et vous avez pris votre retraite donc après avoir changé votre condition là, parce que ça devenait difficile là, pour vous de vous auriez pas pu retourner à votre ancien travail sans avoir votre vue, donc vous avez décidé de prendre votre retraite. Est-ce que ça change les plans de la retraite, de le fait que vous ayez une nouvelle condition?
Oui, c'est-à-dire que, ben oui, puis non, je veux dire, moi, j'ai toujours arrêté de travailler, vu premièrement, en perdant ma vue, ben, j'avais plus de permis de conduire, fait que je peux plus me rendre au travail, puis je travaille à Montréal, fait que moi, je reste à Rive-Nord, fait que je peux plus aller travailler, fait que j'ai automatiquement, à 63 ans, je suis obligé de prendre ma retraite. Mais mes projets de retraite qu'on avait quand je voyais avant, quand j'étais jeune, c'était ben, c'était de voyager avec les enfants, avec là où je voulais m'acheter un Winnebago, puis voyager. Là, je peux plus faire ça. Là, oui, je voyage, mais avec mon épouse, je n'irai pas en voyage tout seul. Je vais pas, ben, la retraite, c'est donc dans ce sens-là que ça l'a changé. Ben, je suis plus manuel. J'aurais aimé construire d'autres choses, faire des choses avec mes petits-enfants, des petites cabanes à moineaux, n'importe quoi. Mais ça, c'est plus possible.
Vous dites que vous êtes plus manuel, mais il me semble, là, en pré-entrevue, vous m'avez quand même dit, là, que vous avez réparé la porte de votre cabanon. C'est quand même manuel, ça?
Oui, j'ai réparé ma porte de cabanon, mais ça, je vous dis que au début de tout, comme j'ai dit, j'accepterai jamais d'être non-voyant. J'ai voulu mettre en épreuve. Ma porte était trop grande, elle était trop longue. Avec les outils que j'avais, il faut que je m'asseye, il faut que je me prouve que je suis encore capable. Je l'ai fait, j'ai coupé ma porte, c'est une porte d'aluminium en plus. J'ai coupé ça avec la scie, puis j'ai fait le ciment toute seule. La seule chose que je n'ai pas faite toute seule, c'est la serrure, parce que c'était toutes des petites vis, c'est ma fille qui m'a aidé. Non, oui, je l'ai fait. C'est manuel, c'est. Je veux dire, quand on parle de manuel, je parle de construire une maison, des choses comme ça, je ne suis plus capable.
Oui, on s'entend là pour construire une maison, évidemment, là, sans la vue, ce serait difficile, mais quand même, je considère manuel que de faire une porte, que d'être capable de faire une porte et puis qu'elle soit de bonne grosseur pour entrer dans le trou. Il y a bien des gens qui ont leurs deux yeux qui feraient pas ça, là, qui sont pas assez manuels pour faire ça.
Puis mon fils, quand il a vu ça, il a dit, papa, c'est pas toi qui as fait ça, t'as fait venir quelqu'un? Je dis, non, c'est moi. Il m'a dit, je travaillais mieux en non-voyant qu'en voyant.
Ça, c'est l'avantage, mais vous disiez aussi, tu sais, je fais plus attention maintenant que je suis
Oui.
non-voyant, je fais plus attention, donc tout devient un petit peu plus facile parce que je porte plus attention qu'avant.
C'est ça la différence. C'est ça que j'essaie d'expliquer à des personnes qui vont devenir non-voyants, qui sont juste semi-voyants. Quand on devient non-voyant complètement, c'est plus facile parce que quand on est semi-voyant, qu'au début, moi, quand j'étais comme semi-non-voyant, je me frappais partout. sais, j'essayais de faire tout pareil comme quand je voyais. Tandis que quand on devient complètement non-voyant, on devient plus prudent. On est plus, c'est, on voit, on fait attention, on tente un peu ce qu'on voit. Tu sais, je me ferais quasiment plus jamais, jamais. C'est ça la différence.
Et vous comptez aussi rester dans votre maison le plus longtemps possible, hein, étant donné que vous l'avez construite et que donc vous la connaissez bien, là. T'sais, ça serait difficile. Ben, ce serait une nouvelle adaptation pour vous que de changer de maison, de déménager, là.
Je ne changerai pas, c'est pour ça que j'ai fait une maison intergénération. Ma fille m'a toujours dit qu'elle a dit que ses parents vont toujours rester à côté, puis on va toujours prendre soin de nous. Dire, on n'ira jamais dans un RPA, il n'y en a pas question. C'est son but à elle. C'est sûr qu'à la dernière minute, quand il arrive des choses désagréables, c'est sûr qu'on va se placer, mais à date, je vois pas pourquoi faire que je quitterais ma maison.
Puis au niveau, donc, on parlait de vos relations familiales, de vos proches. Est-ce que vous trouvez que les proches sont assez valorisés dans la société, les proches aidants? Est-ce qu'ils ont une place qui est assez valorisée selon vous là, par la société?
Vous voulez dire, mes proches, s'ils sont, mes proches, s'ils sont
Bien, les
valorisés.
proches aidants en général, est-ce que vous trouvez que la société valorise assez leur travail?
Non. Non, je trouve qu'ils sont négligés, sont oubliés, on pense moins à eux. Mais on combat là-dessus. Là. On est en train de faire on fait des réunions pour les prochains aidants pour les valoriser. C'est très important parce que c'est aussi difficile pour un prochain aidant que la personne qui devient handicapée. Parce que c'est une autre adaptation pour eux autres aussi, là. Il faut quand même penser à eux, là.
Oui, aussi, ils doivent s'adapter à une nouvelle vie puis à un
Exactement.
nouveau rôle, là.
Exactement. C'est beaucoup plus d'ouvrage. Regardez, moi, je faisais tout à la maison. Tout ce qui était à l'extérieur, c'est moi qui le faisais. Maintenant, j'ai tout obligé de. Soit que c'est sûr que je vais faire faire le déneigement, mais le reste, mon épouse, elle va tondre le gazon. Là, j'ai enlevé un peu de difficulté parce que j'ai acheté un robot pour la piscine, fait qu'elle n'a plus besoin de la nettoyer. J'ai fait poser des sprinklers pour le gazon, elle n'a plus besoin d'arroser le gazon pour les fleurs, pour le jardin. J'essaie d'y en enlever le plus possible parce qu'elle m'en fait beaucoup. Il faut qu'elle me fasse à manger, elle me prépare mon linge, elle est toujours à mes côtés pour me surveiller s'il y a un coup que. Non, la prochaine dent, là, je veux dire, il faudrait la valoriser. Même que je dirais que le gouvernement, il n'en donne pas assez. Il n'en donne pas assez.
Qu'est-ce qu'il devrait donner de plus, vous parliez donc au niveau financier?
Au point de vue financier, le gouvernement, il donne aux prochaines dents 2 500 $ par année.
C'est vrai que c'est pas grand-chose, hein?
C'est quoi ça, 2 500 $ pour une personne qui est obligée de. OK, moi, mon épouse, elle a pris sa retraite. Mais une personne qui est à sa retraite, je veux dire, 2 500 $ par année pour une prochaine année, c'est pas beaucoup. Nous, on a nos pensions, c'est tout, là.
Oui. Et est-ce que votre conjointe a dû, j'imagine qu'elle a dû faire un deuil, elle aussi, hein, quand vous avez changé de condition, comment ça s'est passé de son côté? Est-ce qu'elle vous en parle des fois? Est-ce qu'elle vous en a parlé de son cheminement à elle?
On n'a jamais prononcé le mot deuil chez moi. Parce que j'ai jamais pris chaque opération que j'ai eue, je ne l'ai jamais pris comme un deuil. Pour moi, un deuil, c'est quelque chose qui meurt, qu'on n'en vient pas. Chaque opération, pour moi, tout le monde me disait, oh Jean-Pierre, tu viens de vivre un autre deuil. Je dis, non, la prochaine opération va être meilleure. Ou ça va être, de plus en plus, ça va être aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. J'ai jamais vu ça comme un deuil. Puis mon épouse, c'est pareil. Elle n'a jamais vu ça comme un deuil, mon handicap. Au contraire, comme on disait, moi j'ai demandé, j'ai dit pauvre nounou, moi, parce que des fois je l'appelle mon nounou, je dis on s'est marié pour le meilleur et pour le pire, puis là j'en ai dans le pire. Ben, c'est pas du tout. Elle dit on est dans le meilleur. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Fait que, oublier le deuil.
Vous avez quand même une vision des choses puis une vision de la vie qui est semblable, là. Ça aide aussi.
Ah ben oui, ah oui. Il n'est pas question qu'on change. Je ne veux pas changer les habitudes qu'on a eues depuis. Ça va faire 48 ans qu'on est mariés. On ne changera pas les habitudes à cause de ça. J'ai juste perdu mes yeux. Ça, c'est pas grave. Je n'ai pas perdu le reste.
Et tu sais, Ben ça montre que vous êtes bien choisi au départ, en fait, hein, puis que vous avez pas vous vous êtes pas trompé quand vous vous êtes choisi.
T'sais, dans la vie, le mané, il faut que tu fasses un choix, là. C'est-à-dire, on choisit, c'est sûr qu'on choisit pas comment on va devenir, on ne sait pas ce qui va nous arriver le lendemain. Mais quand ça arrive, là, faut-il la force. Faut que tu regardes le côté, toujours le côté positif. C'est sûr que c'est difficile au début, c'est sûr que le monde a de la misère, mais avec un petit tape sur l'épaule, puis avec quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider, tu vas t'en sortir. Moi, mon but à moi, là, les personnes qui sont toutes seules, là, moi, c'est mon but à moi, le reste de mes jours, là, c'est d'aller les aider.
Oui. Pour vous donner une espèce de mission qui, pour
Oui.
vous, on dirait que pour vous, votre condition est venue avec une mission.
Oui, c'est drôle, hein? Oui, je fais ça comme ça.
Ça vous a donné comme une raison d'accepter la situation?
Mais jeune, j'étais comme ça aussi. Je me rappelle, enfant, ma grand-mère est devenue quasiment aveugle à l'âge de 10 ans. Elle m'a demandé de lui servir de canne blanche. Je lui ai servi de canne blanche jusqu'à ses derniers jours, puis elle me récompensait. Mais j'ai toujours respecté, c'était dans notre mentalité autrefois de respecter les personnes âgées. Enfin, j'ai été élevé de cette façon-là, de toujours prendre soin d'une personne âgée ou d'une personne handicapée. C'est normal pour moi de faire ça. Je vois pas la difficulté, je vois pas l'obligation de le faire, c'est naturel. Chez moi, en tout cas.
Société par rapport aux personnes proches aidantes ou par rapport, entre autres, que le gouvernement là, avait pas assez peut-être de reconnaissance envers les personnes proches aidantes. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a assez de reconnaissance ou assez de soutien envers les personnes en situation de handicap?
Non. Non, je trouve que, garde, je veux dire, on a donné toute notre vie avant d'être handicapé à notre pays, à notre travail, à tout. Là, à un moment donné, tu tombes handicapé puis tu ne te retrouves plus avec rien. Mais pourquoi qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu d'aide du gouvernement? Je trouve qu'ils pourraient nous donner un genre de, je sais pas, un genre de pension à part pour nos handicaps, comme toi ou moi, n'importe quel handicap, je veux dire.
Il y a une nouvelle pension fédérale là, qui se donne pour les personnes en situation de handicap. Par contre, les commentaires, c'est souvent c'est que c'est pas assez, en fait. Ils donnent un 200 $ par mois, là, ce qui est considéré comme étant pas assez. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté?
Ben, je savais même pas qu'on avait une pension à part.
Oui, c'est nouveau au niveau fédéral, là, donc dans vos impôts, si vous êtes considéré comme une personne en situation de handicap, là, vous recevrez maintenant un peu plus d'argent, mais voilà, c'est 200 $, donc pour plusieurs organisations, là, c'est un montant qui est risible, en fait, là.
Non, je sais pas pourquoi. Tu veux en parler avec mon comptable?
Oui, appuyez votre comptable après émission,
Oui, oui.
Effectivement, donc, et surtout là, ces jours-ci, on entend beaucoup de coupures, hein. Il y a eu des coupures au niveau des mesures d'adaptation des domiciles, hein. Ça a été annoncé comme quoi il y avait plus de mesures d'adaptation qui étaient acceptées par le gouvernement parce que ils ont plus d'argent là dans leur poche, donc ils ont dépensé tout l'argent qu'ils devaient qu'ils avaient pour y aller. On ne sait pas quand ça va reprendre. Également, les soins à domicile ont été coupés. Hein. Le nombre d'heures de soins à domicile, on vient d'en faire une annonce au mois de décembre, comme quoi les heures aux personnes qui en ont besoin vont être coupées. Vous pensez quoi de ces coupures-là?
J'en pense, c'est franchement, c'est ridicule, mais ce que je trouve drôle et bizarre, c'est que le gouvernement ne met pas son argent à la bonne place. Il fait venir des. Comme l'exemple qu'on a eu quand il a fait venir les joueurs de hockey à combien de millions?
Oui, 7 millions, 7 millions pour venir faire jouer.
C'est ridicule.
Ouais.
Ce 7 millions-là, il aurait pu mettre ailleurs.
Effectivement.
Tu sais, il y a les handicapés, les personnes âgées. Nous autres, on a même plus besoin que les autres, là. Et que cette ligne d'hockey-là, ils sont riches.
Oui, il n'y avait pas particulièrement besoin d'argent, il paraît.
Exact.
Et est-ce que vous trouvez donc que ça dénote, que ça montre un manque de considération des personnes en situation de handicap?
Oui, sûrement.
Qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire les choses différemment? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire?
Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Mais je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, mais moi, je travaille de faire une parade de non-voyants dans les rues là, pour montrer au gouvernement qu'on existe.
Oui, bonne idée.
Oui, je vais le faire.
Vous m'appellerez au 21. On va couvrir l'événement. Canayam sera sur les lieux.
Exact.
Mais est-ce que vous trouvez, outre le gouvernement là, qui ma foi, a fait des coupures là, ces jours-ci, est-ce que vous trouvez quand même que les endroits publics sont généralement bien adaptés ou il y a encore du travail à faire?
Non, il y a toujours du travail à faire. Il y en aura toujours. Je veux dire, pour qu'on s'adapte, que je regarde comme les chaises roulantes, il ne faut pas aller n'importe où. Il y a des places que ça prendrait un ascenseur et il n'y en a pas.
Oui.
Je sais bien ce que je suis mon association. On n'a pas d'ascenseur, on a un monte charge pour les chaises roulantes. Mais c'est pas suffisant. Le gouvernement devrait donner une subvention pour nous aider à faire des choses comme ça.
Oui. Puis il y a des places où ils n'ont ni monte charge ni ascenseur, là, où ils ont des marches à l'entrée, par exemple, puis
exact.
Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas aller. Ouais.
Exact. Vous êtes des chaises roulantes, il y a bien des places qui voudraient aller voir des spectacles, des choses comme ça, puis ils sont privés de ça.
Oui, effectivement. Donc, puis au niveau des personnes non-voyantes, est-ce que les endroits publics correspondent à vos besoins de façon générale ou encore là, du travail à faire?
Là, il y a beaucoup de chemin à faire encore, parce que si tu regardes les lumières sur la route, les lumières...
Vous parliez des passages piétons?
Oui, des passages piétons. Oui. Moi, j'ai fait appel à ma ville pour qu'on change, on mette des signaux aux lumières. Puis ça a commencé, on a commencé à en faire. Mais c'est pas suffisant. Les bicyclettes, c'est une autre chose. Pour nous, les non-voyants, on va prendre une marche, on doit avoir un accès... plus facile, c'est dangereux. Quand on arrive là-dedans, les bicycles et tout, là, puis le gouvernement ne nous aide pas avec les affaires à batterie, là, on n'entend plus rien. Je dis, les autos à batterie, moi, je l'entends, je traverse la rue, je l'entends pas. Là, ils ont sorti les trottinettes à batterie, et ils s'en vont les bicyclettes, on les entend pas.
Oui, OK. Donc, effectivement, pour vous, ne pas entendre les moteurs, là, ça pose problème aux personnes non-voyantes.
Je vais l'entendre, l'auto, mais quand elle va être rendue sur moi, oui. Je vais être content.
Idéalement, on voudrait l'entendre avant.
Exact.
Est-ce que dans les bâtiments, de quoi vous auriez besoin là, pour que ce soit mieux adapté pour vous?
Dans les bâtiments, adaptés, je suis chanceux parce que les ascenseurs sont au braille.
OK.
Puis en plus, ils parlent, ça va bien. Je veux dire, les portes, bien souvent, les portes s'ouvrent tout seul quand tu arrives, c'est bien. C'est l'accompagnement, je trouve, qu'il manquerait peut-être dans les édifices.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Le contact. Le contact que quand tu arrives à quelque part, je veux dire, j'ai besoin d'aide. Et ça prendrait quelqu'un à la réception, qu'il y ait une réception.
Oui, un meilleur service client, donc, là, pour vous aider.
Je vais donner un exemple. Je ne veux pas faire de publicité, mais quand vous allez chez Walmart, un exemple.
Oui.
En rentrant chez Walmart, il y a quelqu'un qui dit bonjour.
Oui.
Il y a toujours quelqu'un. Mais il devrait faire ça dans toutes et
Oui,
partout.
OK.
Parce que moi, quand je prends le transport adapté, le monsieur, il me laisse une place à, devant la porte.
Oui,
Mais
vous
rendu
laissez devant
là,
la porte.
ça me prend quelqu'un pour me guider après.
Oui. Donc, c'est un meilleur service à la clientèle là, pour que
Exact.
vous soyez accompagné vers l'intérieur du magasin puis vers les endroits où vous voulez, vers les produits dont vous avez besoin.
Exact.
Je comprends. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau plus de la mentalité, au niveau des préjugés par rapport aux personnes en situation de handicap?
Des préjugés.
Oui. Est-ce que vous ressentez pas de préjugés par rapport aux personnes en situation de handicap? Ou vous n'avez pas l'impression que la mentalité qu'il faut changer au niveau de la société?
Ouais, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations là-dessus,
Oui.
comparé à avant. Parce qu'avant, je veux dire, quelqu'un qui était handicapé, quelqu'un qui était non-voyant ou quelqu'un qui avait une maladie mentale était mis de côté dans la famille, on la cachait quasiment.
Oui.
Aujourd'hui, on est plus dans la société. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations là-dessus.
Donc, pour vous, le travail est fait à ce niveau-là.
Ben, il y a amélioration encore, mais je veux dire, il y a eu beaucoup d'améliorations.
Et puis, est-ce que vous trouvez que les personnes en situation d'handicap, les personnes aveugles ou non-voyantes sont assez représentées là, à la télévision, dans les arts? Est-ce que vous trouvez que vous avez une bonne représentation?
La question est difficile parce que dans mon cas, moi, ce côté-là, je fais beaucoup de va-et-vient un peu partout, j'ai pas de problème, mais non, c'est vrai, on devrait faire plus, je trouve que ils font plus, regarde, un exemple, les amputés de guerre. Ils vont faire une annonce à la télévision pour les amputés de guerre. Ils vont faire, une autre affaire pour les Olympiques, les personnes en chaise roulante, des choses comme ça. Mais nous, les non-voyants, y a-t-il quelque chose?
OK. Donc, vous trouvez que vous avez une moins bonne représentation que d'autres personnes en situation de handicap.
Exact. J'ai-tu raison?
Je ne sais pas. Il faudrait que je voie. Mais effectivement, on en parle peu, je pense, des personnes qui sont non-voyantes ou aveugles.
Mais là, on a un poste de télévision.
Oui.
La TV. Ça aide beaucoup. On en parle beaucoup. Puis plus ça va, plus on... Mais non, je trouve que. Mais moi, dans mon cas, ce côté-là, j'ai pas de problème.
Vous, ça ne vous affecte pas personnellement.
Non. Non, parce que, comme je vous dis, je fais encore des sports que bien du monde ne font pas, même quand ils voient. Fait que, je vais commencer à faire ma raquette, puis mes. L'hiver, puis m'a fait mon ski nautique l'été, ça me dérange pas. C'est sûr que je vois pas la vague, mais ça, c'est pas grave.
Non,
Bon,
non, ben oui, l'important, c'est de la sentir.
c'est ça, c'est ça.
Mais il y a quand même, donc, vous, t'sais, vous parliez de ma TV, il y a aussi Ami Télé là,
Amitié, oui.
qui offre. Et plusieurs chaînes maintenant offrent de visio-descriptions pour les émissions. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez?
Oui, parce que je vais vous faire rire, parce que des fois, mon épouse est à côté, puis je lui demande, puis qu'est-ce qui est arrivé?
Oui, c'est ça.
Elle s'est endormie.
Oh! OK, non, ça, c'est sûr
Fait
que.
il faut rewinder. Fait que avec le programme, comme vous dites,
Il y a visio description.
le milieu de réception, ça m'aide beaucoup.
Particulièrement quand votre conjointe fait un petit somme à côté, là, puis que vous devez suivre là, par vous-même. Est-ce que
Non,
vous.
mais
Allez-y.
je m'habitue. Avec Louis, on s'habitue, par exemple. J'écoute des suites, voyons,
Des
comment
séries?
on dit, des séries. Et je m'habitue avec la voix. Un coup que j'ai une coupe d'émission, j'ai suivi une coupe d'émission, mais ben là, je sais c'est qui, là, je suis correct.
Oui, vous savez qui parle, donc vous êtes capable
Oui,
de
oui,
suivre un
oui,
peu
oui,
plus
oui.
l'intrigue, là. Ouais.
Oui.
Est-ce que vous trouvez que il reste beaucoup de travail à faire par rapport au sport inclusif? Est-ce que vous trouvez que les sports sont suffisamment inclusifs, qu'on fait assez d'inclusion au niveau du sport, puis au niveau aussi de la publicité dans ces sports-là?
Oui, mais l'espace, il s'agit juste de donner du vôtre. sais, comme ils disent, si la montagne ne va pas vers toi, va vers elle. Il y a des associations qui sont là qui peuvent nous faire faire du sport. Et prendre des marches, jouer au goalball, qu'ils appellent, c'est comme un genre de soccer,
Oui.
pour les non-voyants. Je veux dire, faut rentrer dedans, il faut y aller. Si vous mettez pas un peu du vôtre, ça arrivera pas, là.
Donc, pour vous, le service, l'offre est adéquate. Hein? C'est juste que les
Ben
personnes
oui.
doivent aller vers ces associations-là.
Oui, on peut faire du bicycle, on peut faire n'importe quoi, hein? Du vélo tandem. Il y a toutes des choses comme ça, on peut encore faire. Je veux dire, il y a des associations pour ça.
Oui, il y a beaucoup d'organismes qui aident aux personnes en situation de handicap, aux personnes aveugles, aux personnes non-voyantes
Oui,
également.
oui, 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 oui.
Est-ce que eux, j'imagine que pour vous, là, ça fait une grande différence, étant donné que vous êtes vous-même bénévole, là, j'imagine que vous croyez en la mission de ces organismes-là.
Oui, puis plus ça va, plus ça grandit. Regarde comment mon association a commencé il y a 3 ans, on était comme une vingtaine. On est rendu 300 quelques aujourd'hui, là,
Oh, quand même.
après 3 ans. On est une des plus grosses associations des Laurentides.
Donc, et vous faites aussi là, des conférences pour essayer. C'est quoi votre but là, quand vous faites des conférences, quand vous racontez votre histoire?
Et surtout, je vois surtout pour la résilience. Il faut que je montre au monde, il faut que c'est résilient, il faut que c'est capable de passer par-dessus les obstacles. Je lui montre les étapes de ma vie que j'ai passées, mais tu sais, on dit toujours, c'est toujours plus beau chez le voisin, tu sais, mais regarde, vas-y, tu es capable de faire toi-même ton chemin. Il faut que tu fonces, il faut que. C'est la résilience que j'essaie de lui montrer. Je veux pas qu'on me prenne en pitié. Au contraire, je veux qu'on me dise, waouh, t'étais bon de faire ça. Mais si j'étais bon de le faire, vous êtes capable aussi. Comprenez-vous?
Oui.
Moi, je vois pas, puis je le fais. Vous voyez encore, mais vous pouvez encore faire encore mieux.
Est-ce que vous trouvez que les personnes en situation de handicap, on est souvent pris en pitié?
Oui, mais nous, on l'accepte pas ça.
On n'accepte pas de se faire prendre en pitié, c'est ce que vous voulez
Oh
dire?
non, moi, non.
Oui,
On est pas.
moi non plus, bien sûr.
Mais souvent, le monde nous prend en pitié. Puis je trouve ça. Bon, je m'en. Regarde, je m'en occupe pas. Je m'en fais pas. J'ai d'autres choses à voir. Tu sais, je verrai plus le côté positif. La pitié, je vais voir quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas besoin de pitié.
Oui.
Je suis capable de me débrouiller, puis je fais mes affaires. Puis,
Donc, encore une fois, vous ne vous laissez pas affecter par ça.
Non, 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 non.
Est-ce qu'il y a des choses dans votre nouvelle condition qui vous affectent? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites ça, je trouve ça encore difficile?
La chose la plus, vous allez trouver ça bizarre, mais la chose la plus difficile, c'est, ben j'en ai comme deux, c'est manger. Manger, parce que je sais pas. OK, je sais que mon manger est à 3 h midi, mais qu'est-ce que je mange, je ne sais pas. Des fois, tu piges dans ton assiette, tu sais pas ce que tu vas piger. Et puis, l'autre difficulté, c'est quand que je vais à une place que je n'ai jamais été. Ça, c'est plus difficile.
Une
C'est les
pièce que
deux
vous
choses.
connaissez pas, là.
C'est ça. Mais pour le reste, non, je me débrouille quand même. Je trouve rien de. Mais manger, c'est ma plus grosse difficulté, je pense.
Est-ce que ça
Ça
vous angoisse d'aller dans des endroits que vous connaissez pas?
Ben, pas à ce point-là, mais je me mets des bouchons dans les oreilles.
OK.
Le bruit m'affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Le bruit vous affecte dans le sens où ça vous dérange, là,
Oui, quand tu deviens non-voyant, tes autres sens deviennent encore plus performants. Fait
Oui.
que je suis obligé de me mettre des bouchons dans les oreilles parce que j'entends tous les sons.
OK. Puis ça,
Je
c'est
peux.
dérangeant pour vous, là.
Oui, ça, c'est dérangeant.
OK. Je comprends bien. Et puis, est-ce que vous allez souvent seul dans des endroits où vous privilégiez vraiment d'y aller avec votre conjointe ou avec quelqu'un d'autre?
Non, au début, j'avais ma conjointe, puis ça. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que fallait que je me débrouille par moi-même, que je vais pas y faire perdre son temps à elle non plus. Elle y a des choses à faire. Fait que je me suis pris en main. J'ai dit non, je ne vais pas m'en transporter, je vais me débrouiller, je vais m'en aller tout seul. Fait que je pars puis je m'en vais tout seul. Ou bien, je peux sortir de la maison. Elle va me faire traverser le boulevard. Écoute, j'ai traversé parce que moi, je reste comme un gros boulevard. Elle va me faire traverser le boulevard. Écoute, je suis au bord, mais elle s'en va à la maison. Puis moi, je m'en vais. Je vais prendre mes marches. Je vais aller chez le métro. Je peux aller chez Tim Hortons prendre un café. Non, je me débrouille.
Donc, ça
J'aime
vous.
ça. J'aime ça me valorise.
Oui, c'est ça vous ramène un peu d'autonomie, en fait.
Puis je suis fier de moi. Je me dis, waouh, j'ai encore réussi un autre obstacle. C'est un succès à chaque fois. Parce que même quand je marche avec mon épouse, des fois on marche, elle dit, mon Dieu, tu trembles, t'es bien chaud. Et parce que chaque pas que je fais, moi, ça. C'est pas un stress, mais je suis toujours un peu inquiet parce que je vois pas. T'sais. Fait que c'est ça. Mais je pense que quand je suis seul à marcher, je suis plus confiant. C'est niaiseux, hein? Parce que des fois, tu marches avec ta personne. Combien de fois que moi, j'ai marché avec mon époux, je l'étais pour le bois, puis à un moment donné, j'ai rentré dans un arbre.
Elle va
Parce
oublier de vous
que.
dire qu'il y avait un arbre.
Ben, c'est parce qu'elle parlait avec la personne à
Oui,
côté.
c'est ça, elle portait pas attention.
On porte pas attention, mais on rit de ça, là. C'est
Oui,
drôle.
c'est pas très grave tant que vous n'êtes pas blessé, mais je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que quand vous êtes seul, vous portez plus attention parce que vous vous fiez pas à quelqu'un d'autre.
Exactement, exact, vous avez tout compris.
C'est déjà la fin de notre épisode, monsieur. Merci d'avoir été là, Jean-Pierre Duchesne.
Ça m'a fait un grand plaisir, puis je souhaite à tout le monde d'avoir une grosse résilience. C'est difficile des fois, mais quand un coup que c'est fait, la vie devient tellement plus belle et plus facile.
Je pense que votre message de résilience va passer auprès de nos auditeurs. Puis, en même temps, vous félicite aussi pour votre bénévolat dans différents organismes. On vous remercie d'être là aussi pour les personnes qui sont plus isolées. Je pense que vous faites un bon travail avec ces personnes-là. Puis, on vous remercie de prendre du temps pour ça.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir rejoint, de m'avoir fait connaître votre émission. Puis en
Merci à
même
vous.
temps, puis par la même occasion, si ça peut aider quelqu'un, bravo.
Oui, ben je pense qu'il y a des personnes qui vont connaître à la fois votre association, puis ils vont aussi se reconnaître dans votre message de résilience, puis ça va leur faire du bien. Donc, merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui.
Un gros merci à vous.
Merci aussi à Mathieu Tessier à la régie. Puis de notre côté, on se rejoint pour un prochain épisode de Pis-toi ta journée.